Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec, comme tous les dimanches, Maryse Evangépé, notre membre de la Dream Team. Salut Maryse.
Hello, hello.
Maryse en pleine forme ce soir, parce que c'est un gros programme. Le grand chelem, en attendant la Coupe du Monde, le 15 de France a battu l'Angleterre et remporte son premier tournoi destination depuis 12 ans. Le mondial, c'est dans un an et demi. On se projette avec la Dream Team Rugby. Et notre invité, un membre du staff qui tient debout, Karim Ghezal, dans un instant. Le premier épisode de la série Formule 1 avait lieu aujourd'hui à Bahreïn. Une course spectaculaire conclue par un incroyable doublé Ferrari devant Hamilton. Beaucoup d'enseignements à tirer dans une demi-heure. Et puis, direction la Norvège à 19h45, notre envoyé spécial Julien Richard est à Oslo, où il a assisté à la consécration de Quentin Fillon-Maillet, le vainqueur du Gros Globe. Le classement général de la Coupe du Monde de biathlon sera notre invité. Et on va s'en rendre compte, c'est une immense star en Norvège. Vous vous rappelez ce que vous faisiez au moment du dernier grand chelem du 15 de France. 2010, le monde découvrait le premier iPad. La France découvrait Naïsna, cette petite ville d'Afrique du Sud dont on n'avait jamais entendu parler avant. C'était il y a 12 ans, une éternité, une anomalie surtout, magnifiquement réparée hier soir au Stade de France.
France-Angleterre, c'est parti! Faut être patient, peut-être la sauter sur l'extérieur.
Oui,
attention,
regarde,
Ficou, laissez. L'essai de Gaël Ficou, c'est pas fini avec les avants. Oh, il s'écroule, Ntamak, essai derrière.
Essai de cross, je sais pas, il y a du monde derrière dessous.
C'est maintenant, sorte-nous quelque chose, Antoine Dupont, de ta botte là, secrète. Ça sort vite, ça sort pas mal. Avec Aldrit qui relève pour Dupont.
Dupont, oui,
Dupont,
il va marquer.
Sors-nous, sors-nous quelque chose de ta boîte, Antoine Dupont. Oh, eh bien le voilà, l'essai d'Antoine Dupont. L'introduction pour Maxime Lucu,
Alvin
qui dégage, la France a gagné, la France a remporté le tournoi à destination.
La une du RMC Sport Show.
La France a remporté le tournoi des 6 nations. Ça fait du bien de l'entendre en 2022, celle-là. C'était en direct sur RMC. Wilfried Templier, Denis Charvet au Stade de France et la victoire face à l'Angleterre, 25 à 13. Bonsoir, Jeff Paturo.
Bonsoir à tous. Bonsoir, Maryse.
Rédacteur en chef rugby RMC. Et bonsoir, Laurent Cabane.
Bonsoir à tous, Maryse. Bonsoir.
Membre de la Dream Team, 49 sélections avec le 15 de France, vainqueur du tournoi en 93.
Bien joué.
Laurent, si on avait su en 2010, messieurs, dames, qu'on aurait dû attendre 12 ans pour revivre ça...
On en aurait plus profité.
Ouais, on en a quand même bien profité.
On aurait repris des bières.
Mais c'est vrai que ça rend peut-être, Laurent, cette soirée d'hier encore plus particulière peut-être qu'un grand chelem qu'on avait un peu plus l'habitude d'avoir par le passé.
Ouais, ça donne plus d'épaisseur, ça donne plus de densité, ça a été long. C'est les derniers, c'était quoi? C'était la génération Henri Dornocchi, Javili, c'est ça, Javili, ouais, c'est ça, hein, 2010. Donc c'est vrai que 12 ans, c'est une éternité quand on sait que l'équipe de France régulièrement, donc ils font quand même des résultats. Ensuite, un grand chelem, on sait tous aussi que c'est plutôt difficile, hein. Gagner 5 matchs, il y a quand même des top nations en Europe aujourd'hui. Donc
non vraiment, pas dire que c'était un tournoi qui allait être très serré en plus.
Ouais, non, vraiment, ça reste une performance.
Un tournoi exceptionnel parce que même l'Italie en sort avec une victoire.
Ouais, et belle victoire avec Ange Capuzzo, le futur joueur du Stade Toulousain, qui fait une relance à la fin. Là, c'est incroyable.
Première victoire de l'Italie au Pays de Galles, c'est ça?
Jamais gagné.
Depuis 7 ans pour l'Italie dans le tournoi, 36 défaites consécutives et victoire d'un point hier face au Pays de Galles. Maryse, cette soirée rugby exceptionnel parce que voilà, il y avait cette attente depuis si longtemps.
Ouais, mais soirée exceptionnelle. Moi, je l'avais préparée toute l'après-midi, c'est-à-dire que j'avais acheté à manger pour le matin jusqu'au soir pour pas quitter la maison, les bières, le repas, le fiston, et je me suis enquillé les trois matchs pour bien arriver en pleine nervosité avant le match d'équipe de France.
T'as fini épuisé.
Non, heureuse.
Alors, il y en a qui ont dû finir épuisés, mais heureux, ce sont les joueurs, le staff du 15 de France. Et on est en direct ce soir avec le co-entraîneur des avants, Karim Ghezal, est en direct dans le RMC Sport Show. Bonsoir, Karim.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct sur RMC. Est-ce que je suis pas loin de la vérité, Karim, si je dis que peut-être tu es l'un des seuls joueurs et staff confondus à être tout simplement en état de nous répondre ce soir sur RMC?
Je suis avec effectivement, je suis avec aussi des joueurs et des membres du staff. On partage encore un moment convivial ensemble, donc c'est C'est important, on a vécu un tournoi avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions, et ça s'est joué, en fait, si on se projette au début du stage où on s'est retrouvé à Cassis, fin janvier, ça paraît très loin. On avait qu'une ambition, c'est de se retrouver au dernier match avec l'envie de jouer le tournoi sans avoir à réfléchir sur le goal à virage comme on avait pu le faire sur le tournoi 2020 et 2021. Et c'est ce qui est arrivé, donc c'était un peu le scénario qu'on rêvait. Et au final, il fallait gagner seulement un point, mais c'était à la fois dur parce que les Irlandais avaient gagné avant. Et il y avait encore beaucoup de tension. C'était le scénario rêvé pour bien sûr les télés et tout ça, mais pour nous, c'était encore beaucoup, beaucoup de pression. Et on se rend compte que les émotions ont été décuplées parce que l'Angleterre qui est quand même un adversaire particulier et se retrouver sur ce match-là en jouant les derniers, en sachant qu'il fallait gagner deux points absolument pour remporter ce grand chelem, c'était du coup ça fait que les émotions sont montées assez haut et c'est beaucoup de plaisir.
Et on va en reparler, Karim, on va pas garder longtemps, on va en reparler du match, de l'avenir, mais déjà pour terminer sur cette fête, on l'imagine monumentale hier soir et là actuellement vous êtes où là, à Marcoussis?
Non, on a partagé un moment hier soir après le match comme d'habitude dans le vestiaire ensemble, ce qu'on fait depuis toujours. Les joueurs sont à la fois assez calmes, ça peut paraître assez étrange, mais et ensuite un moment où on a partagé avec nos familles, nos amis, parce que en fait on représente à la fois nos clubs, nos clubs formateurs. On avait tous nos amis, moi j'avais des amis du Gers, de l'Île-Jourdain qui sont venus me voir, mon frère, mes amis d'enfance, mes filles, donc comme tous les joueurs, un peu nos amis proches, où on a partagé un petit moment sur une péniche avec une soirée conviviale et bien organisée. Et du coup, aujourd'hui on a prolongé un petit peu et des choses assez simples à l'image des joueurs que nous avons et qui représentent très bien le public. Et c'est pour ça que les gens se retrouvent en ces joueurs, c'est parce que c'est des joueurs assez simples.
Jeff Paturo. Oui,
bonsoir Karim. Karim, est-ce qu'il y a une peur du lundi là qui va arriver après ce que vous avez vécu, de se dire que ça va être la routine, c'est fini cette belle aventure?
Non, c'est beaucoup d'émotions parce que comme je disais, c'est faire un grand chelem aujourd'hui, se rendre compte que les Irlandais avaient 21 points, qu'il fallait gagner. Même si on faisait un match nul, on gagnait pas le tournoi. Donc on aurait eu zéro défaite, deux points de bonus, et il fallait gagner absolument ce match. Donc ça rend à la fois assez fort les choses et on se rend compte qu'aujourd'hui, faire un grand chelem, c'est terrible en termes d'émotions, mais du coup, ça décuple les choses et bien sûr que oui, ça va être dur de quitter les joueurs et de retourner un peu de la routine, mais c'est aussi des souvenirs et c'est ça qu'on retient à la fin. Et l'image du public et des gens qui sont restés en stade, pour nous, c'est exceptionnel.
Laurent Cavane.
Ouais, Karim, j'ai une question. Moi, j'ai regardé un peu les statistiques. Là, si on doit en retenir une, là, j'ai vu qu'il y avait 148 plaquages, il y a eu 18 fautes de main, et il y en a une qui est incroyable de statistiques, c'est-à-dire 46 secondes passées dans les 22 mètres adverses. Sachant vous avez marqué 3 essais, c'est une stat incroyable. 46 secondes dans les 22 adverses. Seulement.
Oui, c'est sûr.
Seulement. Et j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça incroyable.
Efficacité maximale.
Ouais, efficacité maximale, ouais.
Dans le jeu, on analyse, on essaie d'arriver d'être le plus performant possible quand on a l'occasion d'avoir la possession. Pareil quand on sort du camp, pareil qu'on arrive dans le camp adverse, d'avoir la possibilité en deux temps, trois temps de marquer, de sortir du camp aussi. Et aujourd'hui, on se rend compte que sur un tournoi, c'est des conditions d'hiver avec des matchs différents. Hier soir, c'était un match avec des conditions parfaites. Et on a eu l'occasion de jouer des matchs contre l'Italie avec la tempête, le vent. Un match en Écosse avec 5 km de vent, des conditions différentes qui font qu'un tournoi, ça se joue l'hiver. Et même si au dernier match, comme hier soir, on se joue avec le beau temps et des conditions idéales, on connaît un peu tout, donc avec des scénarios différents, c'est ce qui fait aussi la beauté des choses. Et hier soir, on a eu un match assez fermé, mais on savait que les Anglais venaient nous gâcher la fête, et pour nous, c'était... il y a des approximations, des petites passes un peu où on aurait pu marquer plus tôt.
J'ai vu, il y a 18 fautes de main, ouais, c'est ce qui est pas habituel, c'est pas dans le standard de votre équipe. Les statistiques sont assez intéressantes parce que ça laisse quand même une marge de progression très importante, quoi. C'est intéressant.
On sait qu'on a une équipe avec 25, 26 ans de moyenne d'âge, des jeunes joueurs qui ont 15, 20 sélections de moyenne. Voilà, on a beaucoup de marge de progression, c'est ce qui fait aussi qu'on est qu'on a envie de progresser à chaque fois, mais je pense qu'il faut savourer là, les joueurs qui sont assez froids, qui l'ont montré au Pays de Galles avec un match assez fermé, assez tactique, assez stratégique. Des matchs différents, encore une fois, un match contre l'Écosse avec beaucoup d'essais, une attaque avec 6 essais, chose qui est exceptionnelle de marquer 6 essais au Pays de Galles, en Écosse, un match fermé contre le Pays de Galles, un match tactique aussi contre les Anglais qui venaient beaucoup jouer au pied, qui nous ont renvoyé beaucoup de jeux au pied, où nos joueurs ont répondu présents avec beaucoup de duels aériens. Des matchs différents, encore une fois, le tournoi ça se joue l'hiver, des conditions différentes, et ça se joue sur quasiment 2 mois et demi. Et c'est beaucoup, beaucoup de tension. Et aussi beaucoup, beaucoup de délivrance et de choses, d'émotions, quoi.
Karim Ghezal, le co-entraîneur des Avants du 15 de France, est en direct ce soir dans le RMC Sport Show. On est toujours avec la Dream Team Rugby, Laurent Cabane, Jeff Paturo, avec Maryse Evangépé qui a une question, Maryse.
Oui, alors c'est une question qui n'est pas du tout ni statistique ni technique. Juste, est-ce que vous vous sentez différent ce matin? Enfin, ce soir, plutôt.
Ben, je pense que ce qui fait la force de ce groupe, c'est qu'on a des joueurs et le staff et l'ensemble des gens qui sont assez simples. Moi, en tant que coach, j'ai eu des joueurs de Toulouse qui ont été champions de France, champions d'Europe la saison dernière et qu'on les a retrouvés. C'est des joueurs qui ont une certaine maturité, mais qui restent des joueurs simples, abordables et qui fait que les gens se reconnaissent en eux. Et aujourd'hui, oui, les joueurs ont gagné le grand chelem. C'est un nous, ouais, c'est pas un jeu, c'est tous ensemble. Mais le nous, il représente aussi le public, les gens simples. Et aujourd'hui, les joueurs, je pense que c'est ce qui fait leur force. Et ce qu'ils doivent conserver, c'est d'être assez simple.
Karim, on te garde encore pour une dernière question et après, on te renvoie à la fête. Jeff Paturo.
Une dernière question d'actualité. Aujourd'hui, on a appris que le contrat de Fabien Galthié allait être prolongé sur la durée jusqu'en 2028, qu'il allait constituer son staff, sans doute avec de la continuité. Est-ce que toi, tu as envie de continuer l'aventure dans les années à venir? Vous êtes tous sous contrat jusqu'en 2023 ou 2024. Est-ce que tu te vois continuer aussi loin?
Ben, moi, je me projette surtout sur les matchs qui arrivent. On sait qu'au niveau international, ça va très vite. Les seules certitudes qu'on a, c'est sur la méthodologie et l'état d'esprit, où on cherche à se rassurer sur ça, sur la méthodologie qu'on a et l'état d'esprit qu'on a avec les joueurs. Ensuite, on sait qu'à ce niveau-là, ça va très vite. Et aujourd'hui, on savoure ce tournoi parce qu'on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et très content pour Fabien qu'il puisse prolonger. Après, les choses se feront naturellement. À ce niveau-là, tout est fragile et les choses se font dans l'ordre. Donc, voilà, pas plus de commentaires à faire sur
on
ça.
On en parlera plus tard. On en parlera plus tard, ouais.
Oui. Voilà, merci beaucoup Karim Ghezal, en tout cas, d'avoir
merci
pris quelques Karim. Minutes ce soir sur RMC. Encore bravo et bonne suite de soirée, d'hier, de journée, etc.
Enfin, fêtez ça bien, quoi.
Bonne suite, quoi. Merci Karim.
Exactement. Merci beaucoup à tous.
Bonne soirée. Salut merci. Karim. 19h13, le RMC Sport Show. Toujours en direct avec Maryse, Laurent Cabane, Jeff Paturo. Pourquoi on l'a gagné, ce grand chelem, hier, Jeff, Laurent? Pourquoi, 12 ans après, enfin, ça a souri? Quelles sont les raisons du retour de la France au premier plan du rugby européen déjà?
Est-ce que Laurent, ça tient pas aussi d'abord à la génération exceptionnelle qu'on a?
Ouais, c'est sûr, j'ai pas envie de dire de matière première, mais enfin, la matière première, c'est les joueurs, et c'est vrai que c'est une génération, tout le monde le dit, quoi. Donc on le voit déjà en top 14 dans le championnat domestique, on le voit aussi en Coupe d'Europe. Donc c'est des joueurs qui arrivent, alors pas en pleine maturité, mais c'est des joueurs très intéressants, on le sait tous. Ensuite, il y a des améliorations, il y a aussi la convention LNR, on en a parlé hier.
LNR-FFR, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de temps de disponibilité pour les internationaux.
On a élargi le staff de Fabien Galthié, donc c'est aussi, on lui a donné plus de moyens, donc tout ça, il y a plus encore sûrement d'autres choses, mais c'est vrai que les planètes s'alignent un tout petit peu, au bon moment, j'ai envie de dire, puisqu'on reçoit la Coupe du Monde en 2023, avec encore une fois... des joueurs, un staff compétent et des améliorations entre les relations qui se sont apaisées entre les institutions.
Jeff, on peut préciser dans le détail sur ce que dit Laurent, notamment même sur la mise à disposition des joueurs français. On a l'impression là que même les clubs étaient derrière le 15 de France dans les années 2010.
Et même les autres pays nous jalousent. C'était l'inverse avant. Il faut rappeler que
on nous avait dit ça il y a quelques
années. On a eu Philippe Saint-André hier à l'antenne. Il aurait rêvé d'avoir 42 joueurs à disposition avec des internationaux, 23 internationaux protégés qui sont dispensés de top 14 lorsqu'il n'y a pas de tournoi de destination. Les Anglais, ils ont moins de joueurs à disposition. ça change beaucoup. Il y a un climat qui est vraiment apaisé entre la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby. Il y a des relations cordiales, notamment entre Bernard Laporte et René Bouscatel, aussi avec des présidents de clubs emblématiques avec qui Bernard Laporte s'entend bien. On pense à Didier Lacroix, le principal fournisseur d'internationaux, Thomas Lombard, d'autres. Et c'est vrai que cette équipe de France, elle bénéficie d'un contexte qui est bien plus apaisé qu'auparavant. Et ça se ressent ce matin, il y a un détail. Communiqué commun, vraiment, mot pour mot, de la Ligue nationale de rugby, de la Fédération française de rugby, pour se féliciter du tournoi d'assignation, du travail des clubs. Parce que oui, c'est aussi la victoire des clubs, ce tournoi d'assignation.
Ben c'est bien, tout le monde se félicite, c'est plutôt une bonne chose, même si Toulouse, dans ce moment, doit un petit peu grincer des dents et quelques autres clubs aussi. Mais oui, parce que c'est vrai que ça m'agace un petit peu quand on parle toujours de la super génération qu'on a là, parce que comme si on avait.
Des tocards avant, ce qui n'est pas
exactement, ce qui n'est pas du tout le cas. Je pense que vraiment, on peut féliciter quand ça va bien, quand il y a un travail qui est bien fait, quand on se tourne vers la formation, vers les jeunes, qu'on permet à des jeunes joueurs de jouer, d'avoir leur place dans des clubs qui sont forts, qui sont puissants, mais qui ne vont pas chercher 90% de leur équipe terrain à l'étranger. Et ça commence à se voir, effectivement. Et donc, on a des garçons qui sont complètement décomplexés. Alors, on dit aussi, bah oui, ce sont des garçons qui ont gagné chez les jeunes. Mais avant aussi, on avait des garçons qui avaient gagné chez les jeunes. C'est pas la première fois qu'on est champion du monde chez les jeunes. Donc, je pense qu'effectivement, le travail qui a été mis en place pour que ces jeunes prennent leur place au sein des clubs, parce qu'on a un top 14 qui est fort, qui est puissant, il faut le reconnaître, ça joue aujourd'hui, c'est bien.
Et il y a un détail aussi qui n'en est pas un, c'est le staff. Le staff est composé de spécialistes, de nombreux spécialistes à tous les postes. Là, on avait Karim Ghezal qui s'occupe de la touche.
Vous avez oublié des trompettes avant.
Non, c'est pas ça. Mais c'est que vous avez des compétences que vous n'avez pas. Il y a vraiment en nombre, et c'est qualitatif et quantitatif. Un garçon comme Sean Edwards, un homme comme Sean Edwards, qu'on allait chercher à l'étranger, ça, on n'avait pas avant. En fait, on allait chercher des techniciens à l'étranger.
L'entraîneur de la défense. On a pu constater sur ce tournoi que la défense
au Pays de Galles, l'ancienne équipe pour laquelle il travaillait. Ouais. Et Fabien Galthié, qui est évidemment un technicien en repère. Et c'est pas pour critiquer les staffs précédents, parce que pour en avoir discuté à l'antenne ici même au sujet de Fabien Galthié et de son staff, Philippe Saint-André n'arrête pas de saluer son staff, Marc Livremont aussi, et c'est vraiment un travail avec des spécialistes à chaque poste. Ils sont vraiment armés pour tout ce qui peut se passer.
Et puis sans non plus effectivement dire qu'avant c'était des trompettes. Mais avant, par exemple, on n'avait pas Antoine Dupont.
Je me doute bien que ça n'était pas le cas.
En tout cas, le résultat de tout ça, ça donne ce grand chelem. La victoire hier contre les Anglais, 25-13, et un Fabien Galthié, quelques minutes après le coup de sifflet final, qui explique en conférence de presse ce dernier match face aux Anglais.
C'était sublimement tendu, on va dire, ou merveilleusement tendu. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vécu encore, en fait. On n'avait pas vécu ce type de match fermé, avec beaucoup, justement, d'enjeux sur chaque phase, sur des décisions qui, chaque fois, pouvaient inverser le cours de la rencontre. Donc, pour notre équipe et pour nous, c'est une première expérience incroyable, qui va nous faire grandir encore.
Alors, sublimement tendu, dit Fabien Galthié, mais Laurent Cabane, quand on a, nous, en tant que supporters, qu'observateurs, quand on regarde le match face aux Anglais, hier, finalement, on a presque pas tremblé, quoi. À 10 minutes de la fin, ils sont à 12 points.
Oh, avoue que t'as eu peur quand même.
Non, mais autant face au Pays de Galles il y a une semaine, on sait qu'on est à portée de fusil jusqu'au bout. Là, hier, c'est quand même maîtrisé quasiment de bout en bout. Il y a un petit trou d'air en début de deuxième période, mais on a un peu joué à se faire peur avant le match, mais on était largement au-dessus des Anglais.
Ouais, ils ont bien appréhendé le match, ils l'ont bien préparé, bien sûr, ils l'ont bien abordé. On a eu un petit coup de tension à l'essai de l'ailier anglais là en début de deuxième mi-temps, mais c'est vrai qu'en général ils ont assez bien maîtrisé ce match. On l'a dit, c'était pas non plus un match incroyable en termes de contenu, mais c'était un match important. C'était le match qu'il fallait gagner, c'était le match pour gagner le Grand Chelem. Donc il y avait aussi toute cette pression, mais je trouve qu'ils l'ont quand même plutôt bien contrôlé.
Je rebondis sur tout à l'heure ce que tu disais à Karim Ghezal, là tu lui as envoyé tes stats à la figure là tout de suite. Justement, sur quoi faut, si on se projette un peu, la Coupe du Monde qui arrive dans un an et demi en France, c'est quoi les axes de progression pour
moi, si j'ai bien suivi, il faut passer 1:30 dans les 22.
Plus de ça, plus de
parce
temps.
Parce que vu la rapidité avec lesquelles ils marquent quand ils sont dans les 22, si tu doubles le temps, tu doubles les essais.
C'est aussi
si j'ai bien
ça.
Tout calculé.
Ouais, non, mais c'est vrai que les données, c'est intéressant. Alors, c'est aussi, il faut garder à l'esprit qu'il faut aussi avoir garder aussi sa propre impression, mais la data, c'est intéressant. Il y avait des données qui sont pas terribles pour l'équipe de France, donc ça prouve bien que cette équipe a quand même une grosse marge de progression. 18 passes, 18 ballons tombés, voilà, c'est
oui, elle a envoyé la fébrilité.
Ouais, c'est ça. Mais il y avait aussi
ce que tu disais, je savais pas, je pensais même pas que ça soit possible sur 80 minutes de passer 42 secondes seulement
alors qu'ils ont marqué quand même 3 essais.
Mais ce qui montre bien que c'est peut-être ça qui a le plus plus changé dans cette équipe de France, c'est-à-dire que ce qu'on prêtait comme qualité à d'autres équipes, si on leur laisse une opportunité, ils marquent.
Ouais, ouais.
Aujourd'hui, ça devient français aussi, ça redevient français. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité, il y a une frappe chirurgicale, ça marque.
C'est comme la semaine dernière au Pays de Galles, on rappelle que l'équipe de France n'avait pas été flamboyante, mais défensivement, c'était beaucoup, même très impressionnant. Et c'est ce qu'avait dit Laurent Labitte, l'entraîneur d'Aling Zaire sur RMC. Il avait dit, avant, on savait pas gagner moche. Maintenant, on sait le faire. Et ça, c'est important de savoir.
Oui, il faut savoir gagner de toutes les façons possibles.
Dans des registres différents. Dans des registres différents. De gagner n'importe comment. Tant qu'on gagne, c'est le principal aussi.
Il est 19h20. C'est le RMC Sport Show. On est sur cette victoire. La victoire du week-end, de l'année, de la décennie, peut-être. Oh, en tout cas, attends, le grand chelem du 15 de
l'année
France.
Prochaine.
Oui, mais bon, attends. Ça fait 12 ans qu'on l'attend. Laisse-nous profiter un peu.
Ouais, mais pas de la décennie, soirée. Parce qu'il reste 8 ans quand même. Même pas se contenter que de celle-là.
Pour l'instant, jusqu'à maintenant.
Tu sais ce qu'on dit, l'appétit vient en mangeant.
Exactement. Avec Laurent Cabane, avec Jeff Paturo. Si on s'intéresse aux hommes, aux individualités, et j'ai envie de te poser en premier la question à toi, Laurent, tu retiens qui de ce tournoi Destination? Bon, il y a la réponse facile.
Non, la réponse facile, c'est quand même une performance collective. C'est vraiment un résultat collectif, je trouve. Hier, il y a quelques joueurs, bien sûr, qui se sont un peu détachés, qui ont fait un bon match. Je pense à Aldrit tout de suite, Dupont. Mais c'est vrai que le premier ressenti, c'est vraiment collectivement, cette équipe a pris de l'épaisseur, de la confiance. Et puis surtout, il y a le sentiment qu'on a avec cette équipe, c'est qu'elle dégage quand même de la puissance, qui n'était pas forcément le cas de l'équipe de France avant. Et dernier point, c'était un peu le sujet sensible en équipe de France, c'est physiquement quand même, la condition physique des joueurs, on a quand même progressé énormément sur ce secteur-là. Ça reste quand même un point important.
Il y a la résistance jusqu'à la fin, et puis il y a moins de blessés du coup aussi. Ça aussi, c'est remarquable, parce qu'effectivement, quand tu fais un tournoi, quand tu fais une Coupe du Monde, c'est toujours bien de pouvoir t'appuyer sur tes ténors jusqu'au bout et non pas de les voir craquer les uns après les autres parce que insuffisamment préparés. Là, on a vraiment effectivement l'impression de gros costaud, quoi.
Jeff, Paris et Maryse aussi, les noms là que vous ressortez de ce tournoi.
Non, mais je suis entièrement d'accord. Par exemple, cette troisième ligne de l'équipe de France, elle est très très séduisante. Mais c'est vrai qu'un garçon comme Antoine Dupont, on rappelle qu'il a été nommé capitaine dans l'absence de Charles Olivon. Qui était blessé, qui est revenu en club il y a quelques jours. On a le sentiment qu'il booste tout le monde dans cette équipe par son talent. C'est pas le garçon le plus expansif de la planète, mais on va écouter un son de Melvin Jaminet et vous allez entendre, il y a quelque chose en plus avec Antoine Dupont. On l'écoute.
Il est le meilleur joueur du monde et c'est pas pour rien. Il a prouvé tout au long de sa carrière. Et forcément, c'est un leader sur la vie de groupe et aussi sur le terrain. Donc on a envie de le suivre. On est serein et forcément quand on a un joueur comme ça dans l'équipe, il nous pousse vers le haut et je pense qu'il fait beaucoup de bien à l'équipe et l'équipe le rend bien aussi.
C'est vrai que Dupont, capitaine,
Charles... Il va y avoir un casse-tête après.
Ouais, bah oui, parce que Olivon, on se souvient l'année dernière, c'était quand même une pièce maîtresse de ce 15 de France. Bon, là, les absents, malheureusement pour eux, on espère qu'ils n'ont pas raté le train, mais ça va être dur de revenir.
Oui, ensuite, on sait tous qu'ils ne vont pas gagner le match à 15 ni à 23, jusqu'à la Coupe du Monde. Il y a une première tournée au Japon cet été, dans des conditions, on le sait, fin de saison.
Avec surtout Charles Olivon.
Ouais, bien sûr, avec des demi-finales, des finales, donc il y aura aussi des opportunités pour d'autres joueurs. Non, vraiment, toutes les lignes se sont densifiées. Il y a de la concurrence à tous les postes. Et puis c'est vraiment, il dégage encore une fois beaucoup de choses cette équipe. La première ligne, vraiment, c'est
un garçon comme Cyril Bail.
Ah ouais, Bail, Marchand. Enfin, vraiment, c'est même Antonio qui est revenu vraiment, qui est revenu performant. Une deuxième ligne qui s'est bien installée, qui reste quand même une surprise en deuxième ligne. Il y a encore Bernard Leroux, il y a Flamand aussi qui a fait quelques apparitions. Donc c'est une équipe de France qui est partie sur des bons rails. Ensuite, ça reste des matchs de haut niveau. C'est de la compétition. Il faut rester vigilant. Il faut rester ambitieux.
La Coupe du Monde, c'est dans un an et demi, on commence à se projeter, mais quand est-ce qu'on le revoit, nos bleus? Laurent disait tourner au Japon, c'est ça les
prochains
matchs?
Tourner au Japon, il y a deux tests début juillet, les deux premiers week-ends de juillet, ce sera sans les joueurs finalistes. Donc il y aura quelques absents, le staff veut un peu laisser reposer certains joueurs.
Il y aura tous les Toulousains, c'est bien. Ils vont revenir.
Ensuite, après la tournée du mois de novembre aussi sera assez passionnante avec l'Australie, l'Afrique du Sud à Marseille, l'Afrique du Sud champion du monde en titre, et le Japon à Toulouse. Et ça, c'est une très belle tournée.
Ouais, c'est une belle tournée. Novembre 2022, c'est une grosse tournée.
Ça va être sympa. Hein,
et ce sera à suivre sur RMC, évidemment. Juste rapidement, on a posé une question à Karim Ghezal tout à l'heure, Jeff, qui a gentiment botté en touche, justement. T'es en mesure de nous annoncer que pour Galtier et tout, ça continue.
En fait, la prolongation de Fabien Galtier va être... signé, bouclé la semaine prochaine. C'était un secret de polichinelle. Bernard Laporte l'a d'ailleurs annoncé aux joueurs, au staff. Il en a parlé vendredi à la veille du match. Et il était sur RMC, le président de la Fédération française de rugby. Et samedi, hier, il nous disait que ça allait être une question de jour. Et effectivement, Fabien Galthié va continuer, non pas jusqu'en 2027, mais bien jusqu'en juin 2028, comme ça il prépare le tournoi, il fait le tournoi, après il laisse sa place au successeur, c'est un contrat à long terme, et après Fabien Galthié va choisir avec quel homme il veut continuer, savoir s'ils vont continuer avec le même staff. Il y en a certains qui sont en fin de contrat en 2023 comme lui, d'autres en 2024, et c'est à lui de composer son équipe, mais si on pouvait garder une équipe qui fonctionne, un staff qui fonctionne, ce serait peut-être une bonne idée. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un contrat XXL sur la durée, ouais. c'est étonnant.
La touche, d'ailleurs, perfectible côté français.
Oui, tu ne l'as pas dit à Karim Ghezal.
Non, non, profite évidemment, totalement lâche qu'il ne soit pas là pour le dire.
Oui, c'est souvent comme ça, j'ai remarqué.
Oui, évidemment. Ouais. 19h25, merci beaucoup Jeff Paturo, Laurent Cabane, merci d'être venu ce soir dans le RMC Sport Show. Rendez-vous demain sur le podcast Entre les poteaux pour revenir sur ce magnifique tournoi des 6 nations et cette victoire du 15 de France. La soirée continue, on est en direct jusqu'à 20h avec Maryse dans le RMC Sport Show. Dans un instant, Formule 1, c'est reparti pour cette saison après le sacre de Verstappen face à Lewis Hamilton. La réglementation a changé. On est reparti quasiment à zéro et ce sont les Ferrari qui ont réalisé le doublé. Mais d'abord, le direct avec ce sommet du championnat italien. La Roma affronte la Lazio. C'est avec Mathieu Zaccanini. C'est la 30e journée de Serie A. Salut Mathieu.
Salut Thibaut, salut à tous. On se retrouve au Stadio Olimpico pour ce derby de la capitale. Bon, pour vous faire simple, le suspense, il n'y en a pas vraiment puisque l'AS Rome a inscrit 3 buts en première mi-temps. La Lazio est un petit peu décevante, même si la physionomie du match est très différente puisque la Lazio presse beaucoup plus et beaucoup plus haute et dans le terrain de l'AS Rome, dans le camp, mais finalement il n'y a pas beaucoup d'occasions et l'AS Rome patiente, les joueurs patientent en tout cas assez facilement et récupèrent les ballons presque dans leur surface. Et c'est un peu une technique de José Mourinho, son entraîneur, je pense qu'il avait dans les vestiaires décidé et dit clairement aux joueurs de patienter à l'arrière. Ils attendent tranquillement, il n'y a pas beaucoup d'action dans cette deuxième mi-temps, à part peut-être ici, là il y a un débordement sur la droite, il y a un bon centre et finalement c'est récupéré par les défenseurs de l'AS Rome. Ça fait toujours 3-0 pour l'AS Rome face à la Lazio dans ce derby italien.
Merci beaucoup Mathieu, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette rencontre. Et donc la F1, c'est reparti fort, très fort à Bahreïn. Le débrief avec Jean-Luc Roy dans un instant. 19h27 RMC, à tout de suite.
RMC Sport Show,
Thibaut Giangrande.
Il est 19h30, nous sommes dimanche le 20 mars 2022, toujours avec Maryse Evangé-P en direct jusqu'à 20h. Merci d'écouter RMC ce soir, on retourne peut-être de week-end. On vous accompagne et on sera dans quelques instants en Norvège avec Julien Richard, notre envoyé spécial qui a assisté au sacre de Quentin Fillon-Maillet, qui sera notre invité, la superstar française des Jeux de Tokyo et superstar en Norvège justement. On va s'en rendre compte dans quelques instants. Le débrief du premier Grand Prix de Formule 1 de la saison, dans un instant, avec Jean-Luc Roy, 19h31, face au foot.
RMC Sport Show,
la minute foot.
Ce sera l'événement de la soirée sur RMC, 20h45. L'Olympique de Marseille accueille l'OGC Nice, le deuxième face au troisième de Ligue 1 avant le début de cette journée, puisque Rennes est passé devant cet après-midi. Un choc pour la deuxième place qui sera commenté sur RMC par Florent Germain, déjà au Vélodrome. Salut Florent.
Salut Thibaut, salut à toutes et à tous.
Un gros choc à domicile pour l'OM et c'est peut-être ça le problème pour les Marseillais, Flo.
C'est dur. Ouais, c'est dur au Vélodrome cette saison. C'est même peut-être un peu injuste pour le les supporters marseillais qui donnent tellement de la voix au Vélodrome, qui en général remplissent le stade, mais c'est une réalité. 22 points perdus quand même par l'OM cette saison à domicile, 5 victoires seulement en 14 rencontres de Ligue 1, donc c'est pas beaucoup. Et surtout il y a eu ces dernières défaites contre Clermont, contre l'AS Monaco aussi, qui ont plongé un peu l'OM, qui avait plongé, parce que tout va vite, l'OM dans une mini-crise. Mais il y a eu ces 3 victoires consécutives contre Bâle en Coupe d'Europe et surtout à Brest. Milik qui est de nouveau titulaire, il n'y a plus de débat, une ambiance donc positive, parce qu'il y avait eu cette réunion avec Pablo Longoria et les leaders de groupe de supporters. Ils avaient dit juste après Monaco que si l'OM ne réagissait pas, attention, il mettrait le feu ou ce serait électrique au Vélodrome. Donc ambiance positive, mais effectivement il y a un peu le feu à l'extérieur. Le parvis du fort de Montmirail, c'est l'entrée principale du stade Vélodrome. C'est vraiment une ambiance des grands soirs. Il y a même des feux d'artifice depuis quasiment une heure, des fumigènes, un parvis qui est bondé, donc grosse ambiance. 65 000 supporters attendus. Et quand les Niçois sont arrivés tout à l'heure pour reconnaître la pelouse à 19h17 précisément, ça a énormément grondé parce que les Winners, les fanatiques, étaient déjà au stade depuis une bonne heure pour attendre les Niçois.
Une immense soirée en perspective sur RMC. Merci Flo. Rendez-vous à 20h45 pour le coup d'envoi de ce Marseille-Nice et dès 20h dans l'after pour les compos, l'analyse des compos autour de Gilbert Bribois. 19h32, on attendait ça depuis le 12 décembre dernier au soir du sacre incroyable de Verstappen. On avait qu'une hâte que la nouvelle saison redémarre. C'est fait et on n'est pas déçus.
Extinction des feux, voilà, c'est parti avec Charles Leclerc a priori qui s'est bien élancé, suivi également par Carlos Sainz. Charles qui croise la trajectoire pour bloquer Max Verstappen et il aborde le premier freinage en tête.
Un départ impeccable de la part du poleman Charles Leclerc avec sa Ferrari qui a croisé immédiatement la trajectoire pour fermer l'intérieur à Max Verstappen.
Le meilleur secteur pour Verstappen maintenant, les deux meilleurs secteurs pour Leclerc, le deuxième et le troisième. Ah, il y a beaucoup de suspense, rien n'est joué entre le Monégasque et le Batave, le Hollandais qui porte le numéro 1.
La voiture de Pierre Gasly qui a pris feu.
Un tête à queue de Pérez. Oula, tête à queue de Sergio Pérez, semble-t-il. Qu'est-ce qu'il a fait, le pilote mexicain? Décidément, c'est la déroute dans les derniers tours pour l'équipe Red Bull Honda. Quelle remarquable domination de l'écurie Ferrari. Les Rouges sont revenus aux affaires.
La deuxième période du RMC Sport Show.
Les Rouges sont de retour en même temps que la Formule 1. Vous l'avez vécu cet après-midi en direct sur RMC, bien sûr, avec également Denis Chevrier, nouveau venu dans la Dream Team RMC. Jean-Luc, qui est en direct ce soir. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Thibaut, bonjour Maryse, rebonjour.
Salut Jean-Luc.
Effectivement, Jean-Luc, les Rouges de retour, Ferrari de retour, c'est un doublé qu'on n'avait pas vu depuis 3 ans en Formule 1. Une éternité pour cette écurie évidemment prestigieuse, synonyme de tant de succès en Formule 1. C'est l'enseignement principal de ce Grand Prix de Bahreïn.
Ben absolument Thibaut, je vais faire le parallèle avec Bahreïn, évidemment c'était la traversée du désert. Ah, c'est très drôle pour l'écurie Ferrari puisqu'ils ont eu du mal à émerger. Alors ils avaient sacrifié, on le savait hein, la saison, la fin surtout de la saison 2021 pour développer la voiture de 2022 avec cette nouvelle réglementation sur laquelle on revient très grossièrement encore une fois, qui permet aux monoplaces de bénéficier d'un appui aérodynamique à cause des ailerons ou grâce aux ailerons et aux moustaches avant, mais aussi surtout à cause de tout ce qu'il y a en dessous de la voiture. Et ma foi, c'est efficace parce que on a vu que les pilotes pouvaient se battre et on va en parler certainement après, mais on a vu surtout qu'on redistribuait les cartes et que l'équipe Ferrari, qui paraissait effectivement à son avantage lors des essais préliminaires de la saison, eh bien ont confirmé et brillamment, puisque là, il fait le carton plein, hein, Charles. Il fait pole, meilleur tour en course et victoire.
Ah oui. On va revenir dans le détail sur plusieurs performances, notamment nos Français. Tiens, je vous redonne le résultat. Donc la victoire de Charles Leclerc devant Carlos Sainz, Lewis Hamilton 3e devant l'autre Mercedes de Russell, Kevin Magnussen sur la Haas 5e, Bottas 7e, Ocon le premier Français sur son Alpine et 7e, Tsunoda, Alonso et Zhou. Voilà pour les 10 premiers, les points de ce Grand Prix de Bahreïn. Avant de rentrer dans le détail des performances, c'était la grande interrogation, Jean-Luc, tu l'as évoqué, le changement de réglementation cette saison où il a fallu pour toutes les écuries pratiquement, enfin c'est un peu grossièrement, mais repartir à zéro. En tout cas, il y a eu énormément de changements. Les monoplaces sont toutes nouvelles et on avait des interrogations sur le spectacle que cela allait donner. On est plutôt rassuré, Jean-Luc, a priori, on devrait avoir une saison où il y aura du dépassement, il y aura du spectacle. C'est la bonne nouvelle du week-end, quoi.
Tout à fait Thibaut, on est vraiment rassuré parce que non seulement on a eu cette bataille au plus haut niveau après le premier arrêt de Verstappen suivi donc de celui du leader de Leclerc et puis les deux hommes se sont retrouvés à quelques dixièmes et là on a vu ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps en Formule 1, c'est-à-dire Verstappen apparemment un peu plus rapide dépasse Leclerc mais Leclerc parvient à se mettre dans son sillage et à le repasser 3 virages plus tard dans le virage numéro 4 et puis la manœuvre est réitérée au tour suivant et encore au tour suivant. Bah ça, je peux te dire qu'en Formule 1, une bataille comme ça en tête, on aurait dit un Grand Prix moto, hein, c'est ce qu'on a dit à chaud avec Denis Chevrier. On adore les Grands Prix moto, tu le sais, qu'on suit également sur RMC. Écoute, c'était que du bonheur. Donc, je pense que cette nouvelle configuration aérodynamique permet effectivement aux monoplaces de bénéficier d'un appui et surtout permet aux pilotes d'attaquer, de se passer et de se repasser. C'est absolument génial.
Tiens, puisque tu parles MotoGP, j'en profite pour faire une toute petite parenthèse de 10 secondes. Il y avait un Grand Prix ce matin et Fabio Quartararo Quartararo a terminé deuxième devant Johan Zarco et derrière le Portugais Oliveira du Grand Prix d'Indonésie. Et donc il recolle au classement troisième au championnat du monde. Fin de la parenthèse, on retourne sur la Formule 1. Alors il y a ce doublé Ferrari qui est exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Luc, avec les Red Bull? Parce qu'on avait vraiment l'impression sur ce Grand Prix qu'il y avait deux écuries au-dessus, loin devant, les Ferrari et les Red Bull. Et au final, à l'arrivée, ils repartent de Bahreïn, les Red Bull, avec zéro point.
Ah oui, la queue basse, c'est le cas de le dire. Écoute, Verstappen a donc tenu la dragée haute à Charles Leclerc pendant pratiquement tout le Grand Prix. Il n'était qu'à quelques secondes. On rappelle qu'il y a eu un moment, effectivement, une neutralisation, un safety car, suite malheureusement à l'incendie de l'Alfa Tauri à moteur Honda de Pierre Gasly, qui était dans les points lui aussi, qui était 7-8e, ça se passait pas mal. Et puis ça a évidemment annihilé tous les écarts, donc il y a eu un nouveau restart. Et effectivement, du côté de Red Bull, on s'acheminait vraisemblablement vers une deuxième et une troisième ou quatrième place. Et puis ça a d'abord été Verstappen qui s'est fait passer donc de manière imparable par Carlos Sainz. On a compris qu'il avait des problèmes de direction assistée. Apparemment, on n'a pas la confirmation au moment où je te parle, mais a priori c'est ça. On suspectait un problème de... Alors est-ce que c'est de l'hydraulique ou de l'électronique? On ne sait pas. Quant à Sergio Pérez qui était lui en train d'essayer de monter sur le podium, malheureusement lui aussi, il a fait un demi-tête à queue dans le virage numéro 1. On a cru à une faute de pilotage, mais apparemment non, c'est le moteur qui a coupé, qui s'est bloqué. Oui. Donc deux problèmes différents sur les deux Red Bull Honda, et le tout dans les quatre derniers tours.
Et rouler sans direction assistée, Jean-Luc Maryse, en 2022, on ne le souhaite à personne, pas même à Max Verstappen, on ne pourrait plus. Jean-Luc, Lewis Hamilton complète ce podium, il est troisième. Bon, pour lui et tous ses titres de champion du monde, c'est loin d'être un résultat incroyable. Mais au vu du week-end, du déroulé de la course, c'est un petit miracle de le retrouver là, le pilote Mercedes.
Absolument, il est opportuniste comme toujours dans le bon sens, il a fait une course solide, il n'avait pas le matériel et ça il l'a, pour une fois, il n'a pas menti parce que d'habitude il nous raconte vraiment des salades hein, mais là non, la monoplace n'était pas au niveau, c'était vrai, on n'a pas triché, donc il s'acheminait vers une cinquième position et puis l'élimination des deux Red Bull dont nous venons de parler lui a offert le podium, alors il prend les points, tu penses, il est ravi même de prendre ses points, il en prend 15, même si devant Charles Leclerc, leader et meilleur tour en course en prend 26, Carlos Sainz en prend 18, donc évidemment, mais derrière les Mercedes sont là, et George Russell qui n'a pas démérité du tout, hein, qui a fait une course très solide, il est parti 9e, il termine 4e, non, bah, chez Mercedes on l'engrange et puis on va énormément travailler pour développer cette monoplace, alors qui elle a recours à une option aérodynamique très originale puisque sur les flancs, on a vu qu'elle était beaucoup plus étroite que les autres, les barge-boards ont disparu et c'est un choix aéro qu'évidemment il faut valider, qui va demander beaucoup de travail. En tout cas, c'est ce que Hamilton disait.
On est dans le RMC Sport Show, 19h40, toujours avec Jean-Luc Roy, avec Maryse Evangépé. On revient, on tire les enseignements de ce premier Grand Prix de la saison qui a eu lieu cet après-midi, remporté par Charles Leclerc devant l'autre Ferrari de Carlos Sainz. C'est nos Français. Alors, Jean-Luc, est-ce qu'on va avoir un Français? On commence aussi à s'y habituer. Un Français vainqueur d'un Grand Prix cette saison. Ocon, sur son Alpine, termine 7e. Pierre Gasly, lui, n'a pas terminé sur l'Alfa Tauri. Qu'est-ce qu'on on retient de ce week-end de nos pilotes français? Bon, on a l'impression qu'ils ne sont pas dans le coup pour la victoire, c'est clair, mais ils ne sont pas non plus tout au fond, quoi.
Non, bah ils sont dans les points. Esteban termine dans les points malgré une pénalité de 5 secondes qui lui a été appliquée pour un accrochage dans le premier tour avec Mick Schumacher. Il a purgé sa peine en passant au stand, mais bon, il s'en sort plutôt bien, effectivement. Esteban, finalement, 7e, c'est un résultat tout à fait honorable. Conforté du côté d'Alpine par la 9e position de Fernando Alonso, son équipier. Donc c'est un tir groupé. Ah, Vincent dirait c'est moyennasse, hein, c'est pas mal, mais on n'est pas encore dans le club de première ligue, c'est loin s'en faut. Et alors, quant à Pierre Gasly, on a eu une belle embellie lors de la première séance d'essai libre le vendredi où il a fait le meilleur temps, carrément. On s'est dit, c'est super bien parti, puis lui aussi. Et puis, malheureusement, il n'a pas été capable de rééditer par la suite ses performances. Alors, il était dans les points avant cette casse moteur, hein, il était dans les points, mais bon, là, il s'en sort pas très bien. Alors, il doit être d'autant plus déçu que son équipier Tsunoda qui est parti très très loin sur la grille de départ, qui a fait une remontée vraiment fantastique, le jeune japonais. Il est parti 16e et il termine donc 8e. Ça doit lui donner effectivement des regrets à Pierre, parce qu'il y avait un beau résultat engrangé.
La saison est lancée, Jean-Luc, et la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve tout ce petit monde dès la semaine prochaine.
Et oui.
Le Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite. Est-ce que à l'issue de ce premier week-end, ça y est, on l'a, la hiérarchie, on aura Ferrari, Red Bull, Mercedes, et puis...
Ah, t'es rapide, toi, en un week-end, tu veux déjà tous les résultats de la saison.
C'est la question que je pose à vous.
Alors, je vais te répondre, effectivement, que chez Mercedes, on doit travailler d'arrache-pied, on a identifié le loup, le problème, enfin, encore une fois, c'est une solution technique, aérodynamique, qui demande beaucoup de travail. Or, tu sais que cette année, et c'était déjà le cas l'an dernier, on a un budget cap en Formule 1, c'est-à-dire que les équipes de Formule 1 sont limitées, on ne peut pas dépenser autant d'argent qu'on voudrait, c'est un peu plus de 142 millions de dollars. Ça veut dire que les petites équipes sont pratiquement au niveau des grandes, et ça veut dire qu'on ne peut pas faire fonctionner les souffleries aérodynamiques pour travailler ça dans tous les sens. On est limité en volume, de surcroît chez Mercedes, parce qu'on a remporté le championnat constructeur. Et ça, c'est des bonnes mesures, tu vois, qui permettent un petit peu de regrouper tout le monde. Donc je pense qu'il faudra un peu de temps pour que Mercedes revienne dans le coup. Globalement, en performance, là, ils le disent eux-mêmes, ils sont à 6-8 dixièmes des temps des Ferrari et des Red Bull. Donc ça ne va pas se gagner d'un week-end sur l'autre, à mon avis.
Une nouvelle ère pour la Formule 1. Merci Jean-Luc. On te retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce feuilleton magnifique qui est devenu ou redevenu la Formule 1. 19h43, le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h. Ensuite, ce sera l'after autour de cette immense affiche ce soir, ce Marseille-Nice. D'ici là, le foot en direct, c'est en Italie que ça se passe, le derby. Romain, Mathieu Zaccanini.
81e minute, toujours 3 buts à 0 en faveur de l'AS Rome face à la Lazio. Hein. Les 3 buts ont été marqués en première période. 2 buts pour l'attaquant, hein, Tammy Abraham, et un super coup franc de Lorenzo Pellegrini. On a failli assister au 4e but, hein, sur une super transversale de Lorenzo Pellegrini à destination toujours de l'attaquant anglais, Tammy Abraham, hein, qui avait fait un super contrôle. Et finalement, il n'a pas cadré, il a tiré à côté. En tout cas, ça fait toujours 3 buts à 0. Et on ne voit pas comment la Lazio pourrait remonter 3 buts dans cette compétition. Ils sont un petit peu dominés. Ciro Immobile, on a du mal à le voir, hein, le meilleur attaquant italien, hein, le meilleur buteur de la Serie A avec 21 buts notamment. Pour l'instant, ça fait toujours 3 buts à 0 et il reste un peu plus de 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Merci Mathieu, à tout à l'heure, 19h44. Tiens Maryse, je profite de t'avoir, je viens de recevoir une petite alerte, on a une médaille supplémentaire au championnat du monde en salle, c'est Belgrade.
Exactement, et j'avais un œil dessus, là je suis en train de regarder Pascal Martin de Lagarde qui a fait une super course 7,50 derrière Grant Holloway, le recordman du monde et champion du monde. Franchement, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là, parce qu'il a eu une saison un peu compliquée avec quelques blessures. Et voilà, en deux jours, nos hurdlers, qui sont des chercheurs d'or, puisqu'hier, Sirena Sambamayela s'est emparée du titre mondial, qui n'était pas arrivé, qui n'est jamais arrivé chez les filles d'ailleurs, sur 60 mètres haies, en battant le record de France de.
Une certaine Evange GP.
C'est ça.
Je demande la sœur.
Un record de France qu'il a fait depuis 31 ans quand même, hein, et qu'elle co-détenait avec Linda Ferga, qu'il avait fait un petit peu plus tard. Mm. Et voilà, Sirena, c'est une toute jeune fille, donc elle sera à suivre jusqu'en 2024 avec un œil très, très intéressé.
Paris 2024 qui arrivera très vite.
19h45. Et on a maintenant Mondo Duplantis qui s'attaque à 6m20 à la perche.
Oui.
Rien que ça.
Ah voilà. Bah
c'est pour faire plaisir à elle du Mexico.
Merci Maryse. Dans un instant, Quentin Fillon-Maillet sur RMC. On sera même directement en direct d'Oslo. C'était le lieu du dernier week-end de cette Coupe du Monde de biathlon. Là-bas, Fillon-Maillet, c'est une star. Julien Richard va nous le raconter. Et puis surtout, on sera avec notre quintuple médaillé olympique. A tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande. 19h48, vous écoutez le RMC Sport Show, votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avec Maryse Evange-Épé, comme tous les dimanches jusqu'à 20h. Ensuite, ce sera l'after autour de cette énorme affiche de la 30e journée de Ligue 1. Le match pour la place de dauphin entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Analyse des compos dès 20h dans l'after. C'est un week-end de consécration. Quentin Fillon-Maillet a reçu son gros globe de cristal de meilleur biathlète du monde. C'était aujourd'hui à Oslo, en Norvège. Et Julien Richard a assisté sur place à ce sacre. Salut Julien!
Salut Thibaut, salut Maryse, bonjour à toutes et à tous, bonsoir.
Salut,
à toutes
salut.
Et à tous.
Comment ça va en Norvège? Est-ce qu'il fait nuit depuis midi?
Non, pas du tout. Non, il fait jour jusqu'à 18h et quelques, avec un super ciel bleu, température printanière. C'était génial. C'était une très, très belle fête.
Voilà, les raccourcis quand on veut faire le malin et qu'on ne connaît pas tout sa géographie. Julien, il y a eu les succès, il y a eu les efforts, il y a eu là beaucoup dit, Quentin Fillon-Maillet pour y parvenir. Et Là, ça y est, il a pu profiter. La saison est finie, saison de biathlon.
Oui, alors c'est pas totalement la fin dont il rêvait peut-être, puisqu'il y a eu sa 7e place sur la Mastart et Bakken, le Norvégien, qui lui chippe le petit globe de cristal de la discipline. Mais c'est vrai que c'est la fin d'une saison exceptionnelle, hein, qu'il a vu changer de dimension avec ses 5 médailles aux Jeux, 2 titres olympiques, 4e français à soulever le gros globe de cristal de vainqueur du classement général de la Coupe du Monde après Patrice Baïsalin, Raphaël Poiret 4 fois et Martin Fourcade 7 fois consécutives, vainqueur en plus donc de 2 petits globes du sprint et de la poursuite. Saison exceptionnelle, je vais arrêter avec les chiffres, mais 13 podiums, 8 victoires en Coupe du Monde. On y rajoute évidemment les 2 titres olympiques, ça fait 10. Donc il va enfin pouvoir souffler. Et je l'ai vu proche de la bouteille de champagne dans le camion avec où on farte les skis, où on prépare les skis avec ses coéquipiers. Et je pense que voilà, la fête va être belle ce soir.
Enfin, parce que c'est vrai que on l'a vu gagner. Maryse, Julien Richard nous a commenté ses courses toute l'année. On l'a vu concentré. C'est vrai que ça fait partie de sa personnalité.
Il a rien lâché jusqu'au bout. Il a tourné vraiment vers ses objectifs et on se lâche pas si facilement. Ou alors il cache bien son jeu.
Ouais.
Alors peut-être qu'à porte fermée il s'éclate, mais c'est vrai qu'il donnait l'impression d'être complètement tourné. D'ailleurs, tu te rappelles, il y a 15 jours où il devait venir nous parler, il avait préféré attendre d'avoir son gros globe acquis avant de venir parler aux médias. Donc ouais, quelqu'un qui est complètement tourné vers sa pratique, qui a bien mérité de souffler un peu et de s'envoyer quelques bulles.
Et dans un instant, il sera à ton micro, Julien Richard, Quentin Fillon-Maillet. Mais raconte-nous, toi t'es sur place, t'es là-bas, t'es en Norvège. Quentin Fillon-Maillet, c'est une superstar là-bas aussi. C'est Maître Gims, quoi.
Ouais, bah tiens, tu parles de Maître Gims, on va mettre de la chanson du coup. La chanson, c'est cadeau.
Magic System, tiens.
Je laisse quelques petites notes. Voilà. Mais revisité à la sauce Jura, puisque c'est signé du fan club de Quentin Fillon. Maillet, alors, Norvège ou enclave française en Norvège? Parce que la tribune d'Oslo, c'était vraiment ça. Énormément de fans de biathlon venus d'un peu partout en France. Et vraiment les supporters français qui faisaient le plus de bruit dans cette tribune, comme Dani et Magali, venus de 7 et de Tours, en partie pour voir donc leur nouvelle star.
On était avec Quentin Fillon-Maillet, notre champion. Et Dieu sait si on a admiré Martin, mais j'avoue que là, Quentin nous a bluffé par son envie, son calme, au fur et à mesure, on l'a vu grandir. Là, on est très, très ému. Moi, je suis très ému personnellement de l'avoir vu maintenant.
L'avoir vu s'épanouir, grandir, se caler, enfin voilà, c'est des grosses émotions, j'en tremble.
On peut le dire hein, maintenant, Quentin Fillon-Maillet a peut-être pris la place de Martin Fourcade dans le cœur des supporters. C'est la question que j'ai posée à ces deux fans parisiennes.
C'est une machine cette année, Quentin.
On attendait qu'il se libère après le départ de Martin et cette année il nous a fait vibrer. Ouais, on est fiers de lui. Martin, c'est Martin, ça sera toujours Martin. Quentin, c'est Quentin, voilà.
Je sais pas s'il pense à succession, mais enfin Martin, c'est celui qui nous a un peu fait découvrir le biathlon, en tout cas pour nous. Et Quentin, il prend sa place maintenant et il le fait de très belle manière.
Quentin Fillon-Maillet à Oslo, sous tes yeux, Julien, qui a donc décroché, qui a reçu enfin ce gros globe de cristal. Et tu as pu le rencontrer il y a quelques minutes à Oslo. Il y a un Quentin Fillon-Maillet qui a enfin relâché un peu la pression.
Representing France, Quentin.
Quentin Fillon-Maillet, allez, 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 Quentin Fillon-Maillet, allez, allez, allez.
L'invité du RMC Sport Show.
Oui, il vient de poser avec tous ses globes et le plus beau, le gros globe de cristal, Quentin Fillon-Maillet. Ça fait quoi de l'avoir enfin entre les mains là?
Ouais, c'est la concrétisation, le relâchement, parce que ça a été tellement intense toutes ces saisons, l'enchaînement des Jeux Olympiques, l'enchaînement des Coupes du Monde, des résultats, et à chaque fois un objectif, un record à aller chercher ou n'importe quoi. Donc l'investissement a été énorme, et là le fait de terminer la saison, ça fait vraiment du bien, parce que l'usure était enfin, quantifiable, et ça a été vraiment difficile là, sur la fin de saison, de rester à chaque fois, voilà, essayer de rien laisser, et donc ça a été super parce que voilà, finalement, j'ai pas le globe de la Mastart, mais je rentre avec comme 3 globes, 5 médailles olympiques de cette saison, et c'est bien au-delà de ce que j'avais imaginé, donc c'est génial.
Quand même, si on se retourne quelques mois auparavant, si on vous avait dit ça au début de saison, première Coupe du Monde à Östersund, vous auriez dit quoi de tout ce qui s'est passé là en quelques mois?
Ouais, je me suis pas fixé limite. Il y avait des objectifs, va dire minimum entre guillemets, et puis derrière, si ça voulait marcher très fort, ben je laissais aller. Donc je suis pas fixé de limite, et finalement, bah voilà, l'enchaînement de la fin de saison, enfin depuis les Jeux jusqu'à la fin de saison, ça a été juste incroyable, l'enchaînement des podiums et tout ça. Donc voilà, je suis vraiment très très fier de cette belle saison, et ça augure de belles choses pour la suite.
Quentin, vous avez pas trop pu rentrer à la maison, très brièvement, mais ici à Oslo, vous avez peut-être pu vous rendre compte d'un truc, c'est la ferveur. Il y avait énormément de public français et ça a énormément poussé. Est-ce que vous avez senti un truc qui avait changé chez les supporters et dans la façon de vous encourager peut-être?
Bah, c'est vrai que on a eu assez peu de public depuis ces derniers temps, mais on a vu sur le Grand Bornand ici à Oslo et même via internet la ferveur que le biathlon prenait, que les résultats qu'on a pu faire tous ensemble avec l'équipe. Donc ça fait plaisir de partager autant d'émotions, et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui ont vraiment des émotions très fortes, qui m'ont dit arrête de faire des performances parce que je vais y passer, ou des choses comme ça. Donc ça a montré un peu l'ampleur de tout ça, et voilà, grosse fierté, parce que c'est quand on émerge du biathlon, moi je le fais avant tout pour moi, et sans forcément avoir de garantie de réussite, de garantie de partager des émotions, et sans garantie de rendre fiers nos fans, les personnes qui nous suivent, mes parents, mes proches, ma compagne. Donc voilà, le fait d'y arriver et de concrétiser tout ça, ça donne aussi une valeur supplémentaire à toute cette réussite. Depuis tout petit, j'imaginais être le meilleur biathlète du monde, chose que j'ai fait cette saison, et c'est plus que la valeur du globe et des médailles olympiques, c'est vraiment les émotions partagées, mais voilà, ces objets, ils permettent de matérialiser en fait cette réussite, et c'est des objets qui sont une valeur inestimable.
Dans cette folle saison, s'il y a un moment qu'on retient là tout de suite comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste marqué à vie particulièrement?
Bah là aujourd'hui, la remise des globes avec mes proches, toute mon équipe, mes coéquipiers, ça a été un moment fort, parce que pendant les Jeux, la tension était encore présente, l'enchaînement des courses, l'atmosphère, le Covid, tout ça, ça a été un peu froid. Et là aujourd'hui, on a vraiment, enfin, j'ai vraiment pu partager. Et puis là, voilà, le relâchement de toute cette pression, bah, ça fait vraiment, vraiment de belles émotions. Mais voilà, après, les médailles olympiques, c'était aussi de très beaux moments. Toute cette saison a été partagée de vraiment de beaux moments.
Tout à l'heure, vous parliez de belles choses pour la suite. Ça promet de belles choses pour la suite. Justement, la suite, ça va être quoi? Alors, tout de suite, il y a profiter, et après, on se penche déjà sur ce qu'il faudra faire pour rester à ce niveau-là sur la saison prochaine.
Là, je me suis posé la question, quels vont être un peu les objectifs, la préparation, même si moi, je ne suis pas plus que ça projeté sur la suite. Je voulais rester sur le moment présent. Je suis sûr que voilà, j'aurai encore plein de beaux objectifs. J'aurai toujours beaucoup d'envie. Et donc, je n'ai pas de doute pour la suite sur ma motivation. J'adore ce que je fais. Je prends plaisir dans ce que je fais. Pas seulement dans les moments de victoire ou de réussite, mais aussi dans la préparation, les moments durs. Ça, c'est ce qui fait que ça me forge l'esprit, et c'est ce qui fait que ça forge ma carrière.
Quentin, avant de vous laisser, on vous a vu dans un tunnel depuis les Jeux, concentré jusqu'au bout de la saison. Ça y est, c'est fini. Là, on va se relâcher un peu ce soir.
Ouais, là, vraiment, c'est partager ça avec tout le monde, prendre plaisir, et plus de contraintes là, pour un gros mois et demi au niveau sportif. C'est vraiment déjà récupérer tout ça, profiter de ces belles médailles et partager.
Merci beaucoup et bravo Quentin pour cette saison incroyable.
À bientôt, salut.
Quentin Fillon-Maillet à ton micro, RMC, Julien Richard depuis Oslo. Merci beaucoup, passe une bonne soirée, bon retour. Le foot, c'est terminé. Le derby romain, 30e journée de série à Mathieu Zaccanini.
Tout à fait Thibaut, c'est terminé. 3-0 pour la S-Rom face à la Lazio ici au Stadio Olimpico avec un doublé de Tammy Abraham, hein, la première à la 22e minute, suivi d'un chef-d'œuvre, hein, sur coup franc de Lorenzo Pellegrini à la 40e. Ça fait 3-0 et il y a un impact, hein, au niveau du classement puisqu'il y a un changement. La S-Rom passe devant la Lazio et pour le moment c'est eux qui ont deux points d'avance désormais sur la Lazio et ils sont directement qualifiés en Europa League et la Lazio passe 6e et est seulement qualifiée pour la Conference League. En tout cas c'était un beau match surtout en première période, beaucoup de coups en deuxième et un très beau succès de l'AS Rome, de l'équipe de José Mourinho.
Merci beaucoup Mathieu, bonne soirée, 19h59, merci Maryse, passe une bonne semaine, à demain 15h dans le Super Moscato Show. L'after arrive autour de Gilbert Brivois, soirée exceptionnelle sur RMC, Marseille-Nice, c'est la clôture de la 30e journée de Ligue 1, le match pour la deuxième place, très bonne soirée.
RMC, l'after foot,
le match.